Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Mi-juin 2024, depuis les studios de CFAQ au Québec. Ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et de Chis 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver de retour en direct depuis les studios de Sherbrooke pour parler de l'actualité de la semaine. Salutations aux collègues de Chiz, qui eux sont du côté de Tadoussac. C'est pourquoi on se retrouve uniquement dimanche cette semaine. Manque pas le bateau en direct ce samedi. Et je devrais pas le dire, mais en même temps aussi ce vendredi. Mais bon. Rattrapez le tout sur les sites respectifs et tout va bien aller. J'ai l'impression qu'on a décidé d'attendre qu'on revienne au Québec pour régler le plus de dossiers possible. Je sais pas, c'était... Ça s'est donné le mot pour qu'on règle des dossiers, ou en tout cas, on essaye de se rendre vers... Pardon. Vers une solution. Mais évidemment, il faut rendre des gens mécontents, c'est sûr et certain. Entre les morts est ramené à nouveau le troisième lien de Québec. Et on a réussi à trouver une toute petite bouée du côté de la CAQ pour tenter de justifier, d'essayer de peut-être sauver des votes dans la région de la Capitale-Nationale, même si encore aujourd'hui, tout le monde est en danger, même s'il commence à y avoir des petites percées. Passons notamment à Geneviève Guilbeault. C'en est une qui, allait avoir de la difficulté dans sa réélection dans Louis Hébert. Pas Louis Hébert, mais... qui allait avoir de la difficulté dans sa réélection. Et finalement, ce sera du coude à coude avec le Parti québécois. Donc, ce n'est pas encore complètement décidé. Oui, c'est Louis Hébert. Je me mélange avec la circonscription fédérale, mais non, c'est bien Louis Hébert. Donc, c'est pas encore tout à fait joué. Il y a encore quelques têtes qu'on peut sauver dans la région de la Capitale-Nationale. Est-ce que ce sera grâce au revival, au retour du troisième lien? Le temps nous le dira, quoique les gens demeurent très sceptiques, et ils font bien de l'être, parce que c'est la huitième fois qu'on leur promet un troisième lien que c'est pas fait. La différence, c'est que le tramway devrait lui aussi voir le jour, et ça non plus, ce n'est pas chose faite. On se souviendra qu'en début d'année, même à la fin de l'année dernière, Bruno Marchand a mangé la claque en se faisant retirer dans sa face le projet de tramway, pardon, avec des délais qui s'en venaient avec Alstom et tout ça. Le gouvernement Legault et Geneviève Guilbeault ont dit « Non, 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 ce n'est pas à toi, Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec, de décider pour la Ville de Québec. Nous, gouvernement du Québec, allons gérer le projet de tramway. Et comme première décision, nous allons pelleter ça dans la cour de la Caisse de dépôt et placement du Québec, section infrastructure, pour qu'eux nous disent s'il faut vraiment faire un troisième lien ou non. Mais, ah oui, c'est vrai, toi, c'est un tramway que tu veux. Ben, on va checker ça aussi, si ça vaut la peine de faire un tramway à Québec. Donc, pendant 6 mois, on avait l'impression que la CDPQ Infra allait juste être un argument pour la CAQ d'abandonner le tramway et dire qu'il allait avoir un troisième lien en commandant une nouvelle étude. Parce qu'on le rappelle, Geneviève Guilbeault disait que dans son propre ministère du Transport, il n'y avait pas l'expertise nécessaire pour réaliser ce genre d'étude et qu'à la place, on l'envoyait à la CDPQ Infra qui, eux, ont déjà fait du transport à Montréal. Évidemment, bon, les résultats qu'on connaît aujourd'hui, on va dire, c'est encore la gang de Montréal, mais ça, c'est une parenthèse du côté de Québec. Donc, dans ces 6 mois-là, Geneviève Guilbeault a essayé de rassurer en disant « on va attendre ce que ça va donner ». En entrevue de fin d'année, le premier ministre François Legault a même dit à Jean-René Dufort que lorsque le rapport allait être remis, on allait y aller de l'avant. Bernard Drainville est arrivé encore trop fier de lui en disant, dans ces 6 mois-là, que c'était évident que la CDPQ Infra allait autoriser un troisième lien parce que c'était évidemment ce qu'on leur avait demandé. Or, ce n'était pas le cas. Et finalement, coup de théâtre, cette semaine, la CDPQ Infra remet finalement, dans les délais, si on peut leur donner, de faire... De remettre un rapport sur le transport dans la grande région de la ville de Québec et conclut, contre toute attente, et un peu des miennes aussi parce que je pensais réellement que ça allait être la porte de sortie de la CAQ, mais au contraire, la CDPQ Infra est arrivée en disant que oui, Québec pouvait et avait besoin d'avoir un tramway. Et on proposait un tracé pour aller rejoindre les couronnes nord le plus possible, de se rendre jusqu'à Lévis, etc., dans un tracé que même Régis Labeaume avait remis en 2016. Donc, ce projet qui aurait dû être amorcé en 2016 sous Régis Labeaume et Pauline Marois n'avait pas vu le jour, mais la CDPQ Infra remet un projet similaire en disant que oui, oui, c'était un bon projet. Donc, surprise, coup de théâtre et probablement amertume du côté de la CAQ, on est positif avec le projet de tramway. Et comble de malheur pour eux, la CDPQ Infra a analysé 6 corridors à travers le fleuve pour tenter de voir si c'était un peu possible de faire un troisième lien à des coûts pas trop pires. La réponse, il y en a un, mais c'est pas évident quand même parce que le fleuve y est trop profond. Notamment, dans les 6 corridors analysés, il y a celui de l'île d'Orléans avec en tête Éric Duhaime qui veut sacrer un pont là-dedans. Des 6 trajectoires, c'est la pire. Parce qu'encore une fois, le fleuve est trop profond et de faire une pente pour descendre de Lévis jusqu'à l'île d'Orléans sur du patrimoine, sur des terres protégées pour ensuite y redonner une swing à l'extérieur de la ville de Québec, ce n'est pas valable. C'est à peu près sauver 5 minutes dans le trafic. Et même dans les autres corridors, celui qui est le moins pire de la gang sauve uniquement 5 minutes. Parce que dans la partie Québec, on atterrit en plein milieu des autoroutes où c'est déjà congestionné la plupart du temps. Donc, le sorti du côté de la ville de Québec ne fait pas sauver du trafic. Il envoie directement les automobiles dans ce même trafic qui est déjà compliqué vu que c'est déjà une section qui relie l'Est et l'Ouest ainsi que Stoneham, le Nord, en descendant vers le centre-ville de Québec. Fait que cette artère-là n'est déjà pas optimale. Rajouter le pont qui vient se déverser là-dedans, on ne fait aucune économie de temps. Après 5 minutes, Hein? 5 minutes de trafic économisé pour combien de milliards dépensés? Parce qu'essentiellement, la CDBQ Infra rappelle que de rajouter une route dans ce sens-là, c'est pas pour faire diminuer le trafic. C'est pour changer le trafic de place. Parce qu'effectivement, mettre un troisième lien dans le milieu d'un champ à Lévis, dans le milieu du trafic à Québec, ça fait en sorte que, oui, il y aura certaines personnes qui peuvent provenir du Bas-Saint-Laurent, les éviter de descendre jusqu'à l'aquarium, de les faire passer par les deux ponts déjà existants, mais à quel prix d'aller se sacrer directement dans le trafic au nord de la ville? Et c'est ça qui fait aucun sens. Et malgré tout, parce que le tramway, semble-t-il qu'on a donné un oui, qu'il y sera reparti, quand, évidemment, on ne le sait pas, parce que l'enthousiasme du gouvernement Legault était un peu moindre en conférence de presse hier, comme il n'avait pas le laissez-passer qu'il souhaitait. Donc, un moment donné, le projet de tramway va repartir, quand? On ne le sait pas. Dans combien de temps, on ne le sait pas non plus. Mais techniquement, on a un oui. On a un oui pour le faire. Reste à voir quand. Par la suite, ça fait également en sorte que, comme justement, il y a un des tracés pour le troisième lien qui est le moins pire de la gang, ben ça fait dire à François Legault et sa gang que oui, on va faire un troisième lien. Malgré que Geneviève Guilbeault, dans les précédents épisodes, était arrivée avant de perdre l'élection partielle à Québec avec une pile, avec trois gros cartables de 1500 pages chaque pour le show. Geneviève Guilbeault est arrivée en disant « Non, on va oublier ça. Il n'y a pas assez de trafic pour ça. » Parce que dans les faits, et c'est ce que la CDPQ a également dit, la population n'est pas au rendez-vous pour justifier un troisième lien. D'où l'argument aussi mince qu'il est et a été la défense de Geneviève Guilbeault, mais qui s'est fait ramasser par Patrice Roy du côté de Radio-Canada hier soir en entrevue. C'était pas beau à voir, Geneviève souriait jaune. Donc le tout petit argument qu'ils se sont trouvés, c'est qu'il y a une journée que le pont de Québec ne marchera plus. On ne sera plus capable de passer sur le pont de Québec. Un moment donné, on ne sait pas quand, un jour. Mais par contre, cette journée-là que le pont va être fermé, ça prend un lien à côté parce que c'est pas vrai que l'économie de la région va souffrir du fait que les camions vont devoir faire un détour à Trois-Rivières pour revenir à Québec. Donc, leur tout petit argument qu'ils se sont trouvés, c'est la santé économique de la région de Québec qui justifie un troisième lien allant entre 8 et 25 milliards, on ne le sait plus, pour des camions. Peut-être, surtout des chars, plus ou moins de transports en commun, même si ce qu'on recommande, ce sera un tramway qui relie Québec-Lévis, centre-ville à centre-ville. Non, la CAQ décide de s'entêter à vouloir faire un troisième lien de chars, comme le souhaitait ardemment pour ne pas pleurer Bernard Drainville, pour essayer de peut-être se sauver les fesses à la prochaine élection, mais encore là, c'est pas sûr. On promet de faire quand même un troisième lien, même si ce que le rapport qu'ils ont eux-mêmes commandé aux yeux et vues de tous dit tramway seulement. On a posé la question. Ça veut-tu dire qu'il faut qu'on commence à faire des ponts au cas où que les ponts actuels décident de tomber dans toutes les villes? Trois-Rivières a juste un pont. Est-ce que ça prend un pont de secours d'un coup que le pont de Trois-Rivières tombe? Sherbrooke, est-ce qu'il faut dédoubler tous les ponts entre l'Est et l'Ouest d'un coup que les ponts tombent? On revient à peu près à l'argument de François Bonnardel, ex-ministre des Transports, qui disait ben, « Le taux de pont par million d'habitants fait en sorte que Québec mérite un troisième lien. » Mais ça faisait également que, justement, Trois-Rivières, il faudrait en construire 3-4 aussi. D'indice de pont par million en comparaison avec Montréal. Mais il ne fallait pas oublier, Bonnardel, que Montréal est une île. C'est normal que Montréal en général, ait plus de ponts que la ville de Québec. Et la raison principale pourquoi il y a deux ponts, un à côté de l'autre, c'est parce que c'est la partie entre Québec et Lévis, Québec et la rive sud, que c'est le plus facile de faire un pont entre les deux. Là, on décide de remonter le fleuve. Le courant n'est pas du bon bord, ben, pas dans le sens que ça va être facile. Les sols sont profonds, sont creux, sont pas malléables, c'est pas du roc. C'est pratiquement impossible à faire dans le trois quarts des scénarios étudiés. Le scénario qui est retenu, c'est pas le meilleur. On dit que c'est du tramway qui devrait être là-dedans. À la place, on s'entête à vouloir faire passer des autos là-dedans. Pour sauver quoi? 5 minutes à la sortie de Québec et aboutir dans le milieu d'un champ et probablement des terres agricoles du côté de Lévis. Mais malgré tout, la CAQ s'entête de manière complètement électoraliste parce que là, ils ont un rapport commandé par eux autres mêmes, pas des études extérieures. Geneviève Guilbeault elle-même, ministre des Transports, vice-première ministre du Québec, députée de Louis Hébert, a demandé à sa gang qui pense qu'elle jugeait meilleure que son propre ministère, qui lui dit... Faites pas de troisième lien, faites un tramway. Ils disent, parfait, on va faire le tramway et le troisième lien. On a bien compris ce que vous avez dit. Faut sauver l'économie de la ville de Québec. On est rendu là, malheureusement, dans le meilleur des mondes. Le tramway va finir par être parti. Le troisième lien, ils seront plus là à la prochaine élection. Et on l'espère, le PQ va canceller ce troisième lien-là et se concentrer uniquement sur le tramway. À moins qu'il y ait une grosse surprise, mais en ce moment, c'est le PQ minoritaire qui rentre. Ça, c'est la différence d'ailleurs. On y reviendra, on va regarder les sondages tout de suite après cette courte pause. Le PQ a quitté la zone majoritaire et se retrouve maintenant en zone minoritaire, d'où pourquoi il y a des petites luttes qui vont être serrées, notamment dans la capitale nationale. C'est le retour du deuxième service en direct depuis le Québec sur les ondes de CFA 88.3 et de CHIS 94.3. De retour au deuxième service, Ariane Roy, qu'on vient d'entendre en musique. Quelle mouche a piqué François Legault? C'est un peu la question qu'on s'est demandé en début de semaine parce que, bon, oui, le troisième lien, le tramway, a volé le show hier, jeudi, on m'a enregistré. On a volé le show jeudi, mais il ne faut pas oublier que la semaine avait quand même commencé avec un François Legault qui disait que 100% du problème de logement vient de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. 100%. On a regardé du côté de la santé, on évalue que pour les 560 000 immigrants temporaires, on a besoin d'environ 11 000 infirmières et d'autres personnels de la santé. Comme vous le savez, il nous en manque actuellement 30 000. Ça veut dire que le tiers du problème qu'on vit de pénurie de personnel en santé vient des 560 000 immigrants temporaires. En éducation, on a des besoins de 3 700 enseignants. Et selon les derniers chiffres, il nous en manquerait 6 300 qualifiés. Ça veut dire que la moitié du manque d'enseignants qualifiés au Québec vient de la présence des immigrants temporaires. Il évalue à 120 000 le nombre de logements supplémentaires nécessaires depuis 2 ans pour loger les immigrants temporaires, alors qu'il s'est construit 90 000 au cours de la même période. Dangereux. C'est le seul mot qu'on peut en tirer. C'est malhonnête de la part de François Legault de dire ça et surtout de mettre la faute sur les immigrants temporaires. Parce que ce sont des boucs émissaires beaucoup trop faciles. Il y avait déjà une pénurie de logements, pénurie d'enseignants, pénurie d'infirmières, pénurie de ce que vous voulez avant 2022. Et même... Oui, 2022. Ça, oui, je comprends 2022. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait 2022 dans l'article, mais en 2022, c'est là que soudainement, le gouvernement de François Legault reconnaissait qu'il y avait des problèmes de logement au Québec. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de crise du logement au Québec. Ça n'existait pas. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Ah oui, le chemin Roxham. Où, effectivement, il y a plusieurs personnes qui ont traversé la frontière de manière régulière. Mais là, le cheval de bataille, évidemment, de François Legault dans les derniers mois, c'est de dire que tout est de la faute de l'immigration. On veut moins d'immigrants, mais s'en occuper plus. Faux. On n'a jamais eu autant d'immigrants temporaires qui ont été approuvés par le gouvernement du Québec. Quand même, qui voudrait sélectionner que la francophonie, ça se peut pas. On réclame du fédéral les pleins pouvoirs. Bien sûr que non. Justin Trudeau n'autorisera pas, ni Pierre Poilievre n'autorisera pas que le Québec ait sa propre frontière. C'est impossible. Après ça, de mettre le blâme au complet sur l'immigration temporaire parce que ça a été mal géré depuis plusieurs années, et c'est pas uniquement de la faute de François Legault dans ce cas-ci, les autres gouvernements avant lui non plus n'ont pas nécessairement investi ce qu'il fallait toujours investir en immobilier, en logement. Parce qu'effectivement, la population a augmenté très rapidement dans les dernières années. C'est normal. Est-ce qu'on va être capable de loger tout le monde? On l'espère. Mais la crise du logement fait également en sorte que le prix des logements est disproportionné. Des logements qui, il y a à peine 3-4 ans, coûtaient dans les 600, 700, 800 $ Aujourd'hui, ces personnes-là quittent ces loyers-là en 2024, par exemple, et vont être remis sur le marché à des 1002, 1003, 1004, 1005, avec peut-être deux portes d'armoire changées. On dit que c'est remis à neuf. Et malheureusement, parce que les gens ont besoin de logement, vont être obligés de payer ces montants-là qui n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres offres. S'il y avait plus de possibilités, s'il y avait plus de logements, justement, là, ça serait justifié que les prix recommencent à descendre un peu, mais là, il n'y en a pas assez. Et qu'est-ce que tout ce que trouve à dire le premier ministre du Québec? C'est que c'est 100% de la faute de l'immigration temporaire. Jean Boulet, en campagne électorale, a perdu beaucoup plus de plumes pour quelque chose d'aussi grave, en disant que les immigrants venaient juste au Québec pour parler anglais, collecter le chèque de BS, pas travailler, etc. Mais François Legault qui dit que 100% de l'immigration est responsable de 100% des problèmes au Québec, c'est d'une malhonnêteté complète. Donc, heureusement pour lui qui avait le tramway à un peu dire du bout des lèvres qu'il allait le faire et qui était enthousiaste de le faire. Justement, il y a un journaliste qui a posé la question. Il me semble que vous n'avez pas l'air si heureuse que ça, Mme Guilbeault, aujourd'hui, d'annoncer le tramway. Non, elle était contente d'annoncer le troisième lien seulement. elle a essayé de faire une petite blague en disant « Ah, vous me parliez du le troisième lien, ben oui, je compte. Ah, le tramway, OK, ben ouais. » C'est de tout ça que ça a l'air. C'est ça le climat politique. Tu sais, justement, on est à se dire « faut qu'on arrête de se crier après, de s'insulter, de hausser le niveau des débats. » Et le premier ministre en rajoute une couche en disant que c'est toute de la faute de l'immigration. Ça, c'est navrant, plus que d'autres choses. Les derniers sondages, les dernières projections qui ont été entrées, avec la dernière pondération pendant début juin, on avait des Léger et Palace qui sont sortis avec de nouveaux chiffres. Le PQ est toujours en avance dans les deux cas, 33-32. La différence chez Léger, la CAQ remonte à 25%. Palace Data, la CAQ se maintient à 22%. Libéral, 17%. QS, 16%. Chez Léger, le Parti libéral tombe à 15%. QS à 14%. Dans les deux cas, conservateurs perdent des points, tombent à 11%, voire 10% chez Léger. Ce que ça dit, au niveau des sièges, le PQ tombe maintenant à 55 sièges. Donc, s'ils étaient en zone majoritaire au début de l'année jusqu'à peu près début mai, maintenant, on parle d'un gouvernement minoritaire péquiste avec la deuxième position au Parti libéral qui remonte à 29 et la CAQ qui freine sa chute, voire augmente sa cote à 26 députés. Ce qui veut dire qu'il y a des zones où ça va être beaucoup plus serré que c'était annoncé. Donc, le raz-de-marée péquiste se calme tranquillement pas vite. Et ça, c'était complètement prévisible que le Parti québécois ne pouvait pas tomber majoritaire du jour au lendemain à ce point-là, même si c'est ce que Paul Saint-Pierre aurait bien voulu. Donc, voilà, le Parti québécois passe de 55, était à 3 à l'élection présentement, 4. Les libéraux qui sont à 20, 21, montent à 29. La CAQ échoue son 90 à 26. Et Québec solidaire perd un membre en passant de 11 à 10. La surprise pourrait être pour Éric Duhaime, qui, lui, a deux comtés qui sont enclins pour lui, ce qui n'est pas une victoire encore assurée, mais qui lui donne tout de même deux sièges qui pourraient être bons pour lui du côté de la Beauce. C'est le plus important. Dans la région de Québec, c'est encore du coude à coude entre le PQ, la CAQ et les conservateurs, si Éric est encore là à ce moment-là. Mais c'est l'Beauce qui pourrait y avoir des gains pour le Parti conservateur, Beauce-Nord, Beauce-Sud, qui sont les plus enclines. Région de Sherbrooke, le Québec solidaire survit. Oui, ça reste Québec solidaire bien solide. Et c'est dans Saint-François où finalement Québec solidaire ne serait plus de la game. Ce serait maintenant le Parti québécois qui pourrait ravir la place à la coalition Avenir Québec. Et dans la grande région de la Capitale-Nationale, comme je le disais, où il y aura des luttes beaucoup plus chaudes. Taschereau pourrait passer aux mains du Parti québécois. Chauveau-Lapeltrie seraient peut-être les deux circonscriptions qui pourraient, en dehors de la Beauce, passer aux mains du Parti conservateur. Donc, étonnamment, Éric Kerr conserverait encore son siège. Où le Parti québécois s'inscrirait de manière solide, c'est dans Charlevoix. Dans Charlebourg, peut-être. Jean Talon, c'est un gain qui se maintient. Et c'est au coude à coude dans Montmorency, Parti québécois, CAQ, Parti conservateur. Sinon, tous les autres, c'est un peu plus difficile. Jean Lesage, de peine et de misère, pourrait rester à Québec solidaire. Mais pour l'instant, Taschereau serait finalement la circonscription en danger pour le Parti québécois. Donc, seul, finalement, garderait sa place et c'est plutôt Étienne Grandmont qui serait en difficulté pour Québec solidaire. Voilà l'étendue pour l'instant. L'élection est bien sûr dans 2 ans. Mais ça donne quand même un indice que, comme d'habitude, rien n'est joué. La CAQ n'est pas encore complètement effacée, quoique il y a beaucoup, il y a une énorme pente à remonter, c'est le cas de le dire. On s'arrête quelques instants, on retourne la suite du deuxième service de cette semaine. Vous écoutez le 88.3 CFAQ à Sherbrooke et chez 94.3 à Québec. De retour au deuxième service Pandaléon qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Rapide parenthèse pour les 300 épisodes du deuxième service. Je m'amuse à revisiter les musiques depuis le tout début. Donc, peut-être aurez-vous remarqué le son, peut-être 2014, 15, 16, qui se dégage des émissions depuis les 2 dernières semaines, depuis Paris, finalement. Ce n'est pas un hasard. On donne dans les vieux succès, les vieux classiques. C'est drôle à dire, mais c'est des tunes qui ont 10 ans et un peu moins. Fait que déjà là, ça peut faire mal à certains de dire « Oui, ça a déjà 10 ans, ces chansons-là. » Mais ce sera le répertoire musical pour les prochaines semaines avant de revenir un petit peu plus en 2024. C'est la petite folie qu'on fait dans la programmation musicale des prochains épisodes. Avant d'aller entendre la bande-annonce de Sans Dessus Dessous 2, parce que je sais que j'aurai pas assez d'un seul bloc, fait que je le fais en deux parties. Je le dis souvent, le cinéma d'animation, c'est pas uniquement pour les enfants. Et dans le cas de Sans Dessus Dessous 2, j'avais des attentes très élevées pour ce film-là, puis j'ai été extrêmement ravi de ce film-là. Et quand je dis que le cinéma d'animation, c'est pas uniquement pour les enfants, dans le cas de Sans Dessus Dessous 2, c'est pas tout à fait un film pour enfants. Au sens où les sujets qui sont abordés dans le film ne s'adressent pas uniquement, premièrement, à un public pour enfants. Et ne serait-ce que c'était le cas déjà dans Sans Dessus Dessous 1, où justement, l'essentiel du premier film, c'était qu'on ne devait pas restreindre ses émotions, s'empêcher de pleurer quand on est triste, tu sais, de juste être heureux, juste être triste, juste être fâché, juste être dégoûté, juste avoir peur. Ça se peut pas. On peut pas être 5 émotions bien distinctes comme dans le premier film. Donc, évidemment, il faut que les émotions se mélangent. Et c'était là-dessus que se terminait le premier film. On a le droit, ça se peut d'être nostalgique, d'être émotif, mais d'être heureux quand même, d'avoir un souvenir heureux ou d'avoir un souvenir triste qui se mélange, que les deux se mélangent, d'être content, d'être fâché, etc. Fait que ça, c'est ce qu'on explorait dans le premier film. Et il y a même des psychologues, des chercheurs qui se sont servis du premier volet pour... justement avec leurs patients, parler des émotions qu'ils vivent et tout ça, de ne pas restreindre les émotions qu'on a en nous et que l'on a en nous. Qu'on a en nous. Quand on parlait d'expression québécoise, qu'on a en nous, que l'on a en nous. Et de ne pas avoir peur, justement, de justement manifester de la tristesse, de ne pas s'empêcher de ressentir des choses. Dans le cas de Sans Dessous 2, Sans Dessus Dessous 2, évidemment, la barre était élevée pour être à la hauteur, que ce ne soit pas juste une autre suite comme ça. Et le défi est complètement relevé. On le voit dans la bande-annonce, les 4 nouvelles émotions. Il y a l'embarras, il y a l'envie, l'ennui et la plus importante des 4 nouvelles, l'anxiété. Ce pourquoi l'anxiété sera l'une des émotions dominantes dans le nouveau film. Parce que, justement, quand on commence à se découvrir, quand on commence à comprendre qui on est, quelles sont nos valeurs, le système de valeurs, la personnalité, « je suis une bonne personne », etc. Ça revient énormément également dans le film. Bien, on introduit surtout le concept de personnalité, de système des valeurs, comme quoi, justement, il n'y a pas que les émotions. T'sais, on peut être fâché de faire quelque chose, mais selon notre système de valeurs, est-ce qu'on va le faire ou non? La question est lancée dans ce film-là. Et c'est bien imagé. Encore une fois, quand je dis que le cinéma d'animation n'est pas que pour les enfants, sans dessus-dessous d'eux, ça traite de sujets sérieux. L'anxiété, c'est un des personnages principaux. Essayer de vulgariser l'anxiété à de jeunes enfants, c'est assez complexe. Tant qu'à moi, c'est réussi. Mais est-ce que c'est un film d'animation avec un petit personnage cute qui vient un peu alléger la situation? Plus ou moins, tu sais, il n'y a pas de Minions, il n'y a pas de petit personnage qui vient, il n'y a pas un chien, il n'y a pas d'animaux comiques qui vient un peu dédramatiser ou en tout cas qui vient nuancer le tout. Tu sais, on est quand même assez cérébral, c'est le cas de le dire, sur un film qui traite d'émotions, de personnalité, de choix de valeur, etc., etc. Mais il en vaut énormément la peine. Ça va valoir la peine d'aller le voir en salle. On fait une courte pause. Au retour, la bande-annonce et on y va de la critique du film complète. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. De retour au deuxième service, Élie Papillon, Bouteille à la mer, qu'on vient d'entendre en musique. Tout de suite, sans plus attendre, la bande-annonce du film Sans dessus dessous deux qui prend l'affiche aujourd'hui, cette fin de semaine-ci.
Ici Joie, en direct de la tête de Riley. Faites du bruit pour notre championne. Tristesse est dans la place, ouais. Voici Colère.
Je vais les faire.
N'oublions pas de mettre notre protège-dents, les amis.
Peur.
Non, c'est pas le nôtre, celui-là.
Dégoût. Contente de t'avoir dans l'équipe. Notre jeune ami grandit à toute vitesse.
Je ne vois pas ce qui pourrait tourner mal.
Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires?
Une nouvelle émotion.
Oh, désolée, les autres et moi, on voulait faire bonne impression.
Les autres, c'est qui?
Oh. Moi, c'est Envie.
Oh, j'adore tes cheveux verts.
Ouais, d'accord, mais pas touché.
Et voilà Ennui.
Ennui? C'est qui? C'est le nouveau mal du siècle.
Comment tu t'appelles, mon grand?
Je vous présente Embarras.
Bienvenue au quartier général, Embarras.
Oh, avec le poing.
Non.
Oups.
Non, comme ça?
Oh.
Oula, t'as la main hyper moite, dis donc.
Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir.
Tu veux t'asseoir avec nous?
Ces filles sont trop cool.
Mais faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça.
Je m'en occupe.
Joie, je me disais que je pourrais peut-être essayer.
Non, mais pas maintenant.
Ouais, d'accoudac.
Eh ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait
faire.
Le changement, ça fait peur.
Allez, on y va.
Riley,
il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous.
Non, attends, tu peux pas tous nous enfermer.
Nous sommes des émotions refoulées.
L'opération Nouvelle Riley commence. Encore fait ta valise?
Je suis nulle!
Les 10 prochaines années s'annoncent formidables.
Aidez-moi!
Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber plusieurs fois?
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est la faille du sarcasme!
La faille du sarcasme?
C'est une sacrée chance qu'on soit tombé sur vous, les gars! C'est une sacrée chance qu'on soit tombé sur vous, les gars!
Wow! Ils sont bizarres, ceux-là. Waouh, ils sont bizarres, ceux-là.
Donc voilà, pour donner le ton, la faille du sarcasme aussi, c'est une excellente trouvaille. Comme je le disais tantôt, j'étais extrêmement enthousiaste quand ils ont annoncé le deuxième volet de la série, ne serait-ce que cette bande-annonce-là, qui mettait en vedette les voix originales de la version québécoise, me ravissait extrêmement également, parce que la version anglophone, je pense qu'ils ont changé la moitié du casting principal, mais on retrouve Charlotte Lebon, Sonia Vachon, Edith Cochrane, Xavier Dolan et Réal Bossé pour les 5 principales émotions. Donc, pour la continuité, c'est tout à fait bien respecté. Catherine Toupin, mais... l'autre qui jouait... Catherine Anne Lemay, non. Bref. Non, Catherine Proulx-Lemay, qui joue la mère. Fait que tu sais, c'est le fun de retrouver justement cette nouvelle prémisse-là de anxiété, envie de vouloir être avec les filles cool de la gang versus nos amis de l'école, parce qu'il faut pas oublier que dans le précédent opus, Riley déménageait du Minnesota ou du Midwest pour arriver à San Francisco, Michigan. Enfin, il y a une joke là-dessus dans le film, fait que c'est pour ça que même moi, je suis rendu mêlé. Fait qu'elle arrivait à San Francisco, elle avait pas d'amis, tu sais, sa nouvelle classe, justement, l'embarras qu'elle avait de pleurer en classe, etc. Et là, on découle, on est 2 ans plus tard. Riley a 14 ans, elle a eu une poussée de croissance, fait que la puberté est pas loin, ça joue aussi. Les émotions dans le tapis, tu sais, tout est bien représenté dans ce film-là, justement, les sauts d'humeur, tu sais, après justement l'événement puberté qu'on a dans le premier teaser, ben, tu sais, la console des émotions est un peu déréglée, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est tellement bien représenté. Puis justement, j'en parlais, il y avait la personnalité qui apparaissait. Donc, justement, c'est plus juste Riley qui est contente, triste, fâchée. Là, on a vraiment une Riley qui « je suis une bonne amie, je suis loyale, j'aime mes parents ». Tu sais, ses valeurs à elle, ses valeurs familiales et à elle-même, ses valeurs propres, ses valeurs en tant que personne sont bien mises en avant et que justement, ce n'est pas que les émotions qui contrôlent nos actions, nos pensées, parce que des fois... les émotions au complet veulent une action, mais que dans sa tête, elle se dit « C'est vraiment la bonne chose? C'est vraiment ça que je veux faire? » Il y a tout ça. Là, on soumet une idée à Riley qui est une ampoule. Quand on a une idée, c'est représenté dans les dessins animés normalement par une ampoule qui s'allume. Bien, on soumet une idée à Riley. Est-ce qu'elle va l'accepter ou elle l'acceptera pas? Ce qui était également dans le premier volet. Donc, idéalement, il faut l'avoir en tête parce qu'on ne recommence pas à expliquer tout ce qu'on a vu dans le deuxième volet qui était dans le premier, donc les souvenirs, la vidange quotidienne, les archives et tout ça. On le passe assez rapidement. Le monde imaginaire, les rêves reviennent, mais dans une autre formule, comme elle a vieilli, comme elle est un peu plus vieille, fait que c'est pas juste la licorne qui danse, etc. Fait que tu sais, on voit également l'évolution du personnage. Tu sais, passé de 12 ans à 14 ans, il y a une différence dans la personnalité, dans l'évolution de la personnalité. Évidemment, les parents bon, sont un petit peu moins présents dans celui-là parce que... Et ça, c'est peut-être le seul reproche que je vais faire au film, c'est que les 9 émotions, c'est beaucoup d'émotions. C'est normal, mais il y a dans ces 9 émotions-là, il n'y a pas une égalité entre les 9. Il y a certaines émotions qui sont un peu mises de côté dans le film, qui ont un petit peu moins de temps d'antenne qu'il aurait pu l'être, mais justement, il y a déjà beaucoup de personnages principaux, fait que ça devient un petit peu plus dur d'être équitable entre les 9. Fait qu'il y a peut-être 2 ou 3 émotions qui auraient pu être un petit peu mieux utilisées ou un petit peu plus utilisées, mais en même temps, dans cette version-ci du film qui est présentée, c'est justifié, fait que visuellement, c'est impeccable. Est-ce que le film vaut la peine d'être vu en 3 dimensions? Peut-être pas, à moins qu'on aille le 8$ que ça coûte de plus pour aller le voir en 3D, mais sinon, on peut privilégier le 2D. C'est pas plus mal. Ça vaut la peine d'être vu en salle, d'être vu sur grand écran. Il y a des beaux visuels, il y a des belles images. Ça vaut la peine, et ne serait-ce que pour le sujet traité, l'anxiété qui vient... modifier les plans, tu sais, on l'entend et on le voit dans la bande-annonce qui va essayer de mettre de côté les émotions principales pour qu'elle prenne le contrôle complet de Riley. Réussira-t-elle ou non? C'est ça la question, mais ça vaut la peine d'être vu sur grand écran. Peut-être avoir vu le premier film, l'avoir en tête du moins, ça peut valoir la peine pour justement peut-être passer quelques notions rapidement dans le deuxième volet. Sinon, il y a une scène d'après-générique pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin. C'est un petit clin d'œil à un élément du film pendant, mais bon, il reste quand même encore des petites surprises. Et il y a beaucoup... Tu sais, c'est un film pour enfants, entre guillemets. Je dirais peut-être un 10-12 ans en montant. Pour les enfants, assez sérieux, les sujets qui sont abordés. Et il y a beaucoup de clins d'œil aux adultes, beaucoup de blagues pour les adultes, de référents plus vieux qui, justement, va satisfaire le public adulte en faisant comme « Ah, je sais c'est quoi ça ». Il y a des petites images à l'écran aussi, une fois de temps en temps, que tu fais comme « Ah, ça, on le reconnaît, ça, on sait c'est quoi ». Fait que réellement, ça vaut la peine d'être vu sur grand écran au cinéma. Ça commence cette fin de semaine-ci, sans dessus, le deuxième volet à l'affiche partout au cinéma. Allez en salle, ça vaut la peine. C'est là-dessus que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. À la semaine prochaine. Salut.